Poum, 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 poum. Ah, on... il pleut.
Oui, il pleut.
Je sais
Il
pas
pleut.
s'il pleut
Non,
encore,
et
mais il a
non,
plu.
en fait.
Non, mais je voulais juste, ça me fait penser parce que il y a quelques années, quand il y avait de la pluie et qu'on allait regarder un match de rugby, on était un peu désespérés parce que ça voulait dire qu'il y avait plein d'en avant et que le jeu allait être assez souvent arrêté. Et là, ces dernières années, je sais pas ce que t'en penses, Teddy, mais j'ai l'impression que il y a une sorte de capacité des équipes de haut niveau à faire aucun en avant et à faire des gestes techniques, enfin des passes de 30 mètres, sans être gênés par la pluie.
C'est vrai, c'est vrai. Mais on va aussi voir beaucoup de joueurs utiliser le pied pour déstabiliser, justement en attendant la première faute de main, à ce niveau-là en tout cas. Mais c'est vrai que sur les en avant et dans le jeu à la main, il y a eu beaucoup de progrès à ce niveau-là.
Avant de commencer l'émission, je voulais dire que ça fait 10 ans. 10 ans, c'est long. Tu faisais quoi il y a 10 ans, Teddy?
Il y a 10 ans, je crois que je commençais les beaux-arts.
Ouais, moi j'étais encore étudiant, je crois. Ça fait quelques années que je travaille avec lui. Pas 10 ans. Je suis pas là depuis le début. Mais en fait, je voulais faire aussi. Cette émission avec Teddy, donc c'est la première fois à la radio, je crois, en live.
Ouais, première fois pour moi.
Pour marquer le coup du fait que ça fait quelques années qu'on fait des choses ensemble et on a toujours pu faire des choses nouvelles ou différentes. Et j'étais content de fêter ces 10 ans avec cette première d'un groupe qu'on essaye de former, qui s'appelle Référentiel rebondissant aléatoire.
Oui.
Tu veux expliquer un peu le
Bah,
titre?
c'est un terme qui est utilisé pour parler du rebond du ballon de rugby. Je pense que tous les deux, on a ça en commun. On a toujours essayé un peu de voir comment intégrer, disons, comment parler du rugby, parce qu'on pratique tous les deux le rugby. Toi dans le sud de Paris, moi dans le nord,
En amateur.
en amateur. Et voilà, on s'est rencontrés sur ce terrain-là en se demandant bah, comment on pourrait parler de rugby. Et aujourd'hui, ça va être une première, tout simplement.
Ouais, parce que c'est assez difficile de faire un sport comme ça et puis de, enfin, on peut écrire dessus, enfin, mais d'arriver à comprendre quelle influence ça a dans sa pratique. Et c'est ce qu'on va essayer de faire en partageant un peu des textes ensemble. Parce que bon, on aime bien jouer au rugby, mais on a d'autres intérêts dans la vie, dont la littérature. Moi, quand je t'ai rencontré, enfin, les choses de toi que j'ai pu entendre, c'était des textes rejoués, un peu altérés, soit par l'ivresse, soit par la musique, soit par la danse. Et voilà, du coup, c'est un peu entre rugby et littérature, on peut dire. Je sais pas.
Oui, disons qu'on j'arrive avec un protocole de jeu donné, disons, et à l'intérieur de ça, il va avoir des phases d'improvisation. Et voilà. Mais en amont, il y a beaucoup d'écriture.
Tu m'avais partagé, je sais pas si tu me l'avais lu au téléphone ou il y avait un texte de Flann O'Brien
Ouais.
dont j'aimerais bien partir avec ce texte, parce qu'il parle un peu
D'accord.
de
Alors,
pratique.
c'est un texte qui est en anglais. Je suis désolé, je vais essayer de le traduire un petit peu après. Et ça commence comme ça. D'ailleurs, le titre du livre, c'est The Third Policeman. C'est un livre qui est très drôle. Ask a blacksmith for the true answer, and he will tell you that the bar will dissipate itself away by degrees if you persevere with the hard wallops. Some of the atoms of the bar will go into the hammer, and the other half into the table, or the stone, or the particular article that is underneath the bottom of the bar. That is well known, I agreed. The gross and net result of it is that people who spend most of their natural lives riding iron bicycles over the rocky roadsteads of this parish get their personalities mixed up with the personalities of their bicycle as a result of the interchanging of the atoms of each of them. And you would be surprised at the number of people in these parts who nearly are half people and half bicycles. Donc dans cet extrait, C'est une discussion entre deux personnages et il parle donc justement. Il dit si tu rencontres un forgeron, il te dira que lorsqu'il frappe la barre de métal avec son marteau, les atomes s'échangent entre la surface contre laquelle la barre est frappée et le marteau. Et il dit de la même façon, les gens de cette contrée qui passent leur temps sur leur vélo ont aussi des atomes qui s'échangent avec le vélo. Si bien qu'ils en deviennent mi-homme, mi-vélo, et de la même façon, leur vélo devient mi-homme, mi-vélo. Et je pense que de la même façon, quand on passe du temps à jouer au rugby, quand on est avec un ballon entre les mains, un ballon qui a en plus ce référentiel rebondissant aléatoire, peut-être que ça influence aussi notre personnalité. On parle souvent de rugby mould, du moule du rugby, pour parler des personnalités des joueurs. Toi, qu'est-ce que t'en penses ?
Mais là, tu parles par type de joueur, non, un peu.
Pour moi, il y a deux rugby moulds. Il y a le premier qui va être lié au poste que tu vas jouer, et il y a aussi un rugby mould plus complet. Je pense que quelque chose qui est en train d'évoluer, mais qui était vraiment le cas des dernières années, c'était de dire qu'il y avait, enfin, en tout cas, du côté anglo-saxon, le joueur de rugby avait des attitudes un peu militaires, un peu carrées, etc. Je pense pas que ce soit nécessairement le cas en France plus
oui,
que ça.
On a une culture de jeu un peu différente.
Oui, mais oui, et puis après par poste, parce qu'il y a des profils psychologiques adaptés.
Associés, oui.
Ouais, associés.
Associés plus qu'adaptés, parce qu'après il y a pas mal de joueurs. Je pense à Adrien Flamand qui a été formé à jouer en 10, qui maintenant joue seconde ligne en équipe de France et qui a une capacité de course et de jeu au pied, de tout un tas de choses qu'il peut faire, parce qu'en fait, il n'a pas été formé pour ce qu'il fait.
Mmh.
Et c'est des joueurs qui sont à très haut niveau, je pense, c'est des joueurs qui peuvent faire la différence, on va dire.
Et aussi la raison pour laquelle, je vais revenir à cette idée de ballon dont le rebond est aléatoire et qui influence notre personnalité. Je pense que moi aussi, d'un niveau pratique, dans ma vie, je laisse ma pratique aller aussi à des rebonds qui sont aléatoires. Du moins, on essaie toujours un peu de contraindre le ballon, de lui donner. On a une intention de jeu, on essaie de lui donner une direction avec ses gestes. Mais parfois ça va pas du bon côté, c'est ce qui arrive très souvent avec la performance, et dans ces cas de figure il faut improviser, et je pense que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup.
Mais même au rugby, il y a une technique qui consiste à attraper le ballon avant qu'il touche le sol, donc de voler pour justement éviter l'aléatoire. Toi, pour tes performances, tu serais plutôt du style à laisser tomber le ballon par terre?
Vu que je joue souvent seul, j'arrive à le rattraper de voler assez souvent. Mais par exemple, aujourd'hui, oui, je sais que je me mets dans un dispositif où tu vas peut-être me faire de mauvaises passes ou des offloads un peu ratés.
Oui, c'est vrai que là, on n'a pas parlé de nos postes respectifs, mais c'est vrai que toi, tu joues à un poste où tu es plus censé savoir faire une passe. Là où moi, pas nécessairement. Moi, cette question de pratique, donc la fusion des vélos avec le corps des cyclistes, et qui pourrait se traduire par une fusion de l'aléatoire du ballon avec le corps du performeur. Moi, ce que le rugby m'a fait un peu en termes de pratique, c'est d'avoir quelque chose un peu toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, assez régulière. Et c'est vrai que comme toi, je crois, j'ai fait une école d'art où la question de la pratique, je parle pas d'une habilité technique, mais de faire quelque chose régulièrement uniquement, elle n'était pas forcément très mise en avant. Et du coup, je pense que ça a une influence sur mon rapport à l'écriture, en tout cas le fait de tous les trois jours retourner sur un terrain et échouer et tomber par terre et se relever. Et par rapport à cette pratique d'écriture, je voulais parler d'un journal d'écriture, d'un, d'une autre personne qui s'appelle John Steinbeck, un écrivain américain du début 20e. C'est le journal qu'il a écrit quand il a écrit Les raisins de la colère. Et je vais juste en lire un extrait. Troisième jour d'écriture à présent. Je ne sais pas à quel point c'est bien, mais j'imagine plutôt que ce n'est pas très bon. Je suis malade, malade de l'esprit. Ma tête est un nuage gris dans lequel les couleurs dérivent et les images se forment à moitié. J'ai été matraqué et je me sens battu par une multitude de petites choses. Et je n'arrive pas à trouver des réponses pour elles. Peut-être qu'il y a des gens qui pensent clairement tout le temps et prennent les bonnes décisions. Je ne sais pas. Mais je me sens tout à fait perdu et solitaire. Et pas d'autre moyen, pour moi j'entends, c'est tellement curieux. Je pense que j'emploie ce mot bien trop souvent. Mais c'est, je suppose, l'indication d'un esprit stupéfait. La chose terrible à contempler, c'est le fait que, quand bien même je penserais mal, tant d'autres gens pensent plus mal encore, bien plus. Et je suis tenu là par une tête suppliciée et un poids croissant, et toute chose de ce genre. Je ne semble plus avoir le don pour vivre encore. L'horloge tourne, mon horloge. Ce livre doit être écrit, il devrait être bon. Je pense que c'est mon livre. Sans doute ces gens qui disent que je ne devrais pas jamais me mêler de pensées ont raison. Je ne sais pas. C'est impossible à dire. Le soleil a disparu de nouveau. Je n'ai pas eu de nouvelles de Carole. J'espère qu'elle ne se sent pas aussi seule qu'elle l'était. Elle était au plus bas. Je crois que je vais laisser ce livre maintenant. T'as une réaction là ? Est-ce que ça te fait penser à des moments, soit d'entraînement, soit de travail ?
Ouais, dans la... Je pense que on a tous des façons un peu différentes d'entrer avec une sorte d'état d'esprit sur un terrain, que ce soit au moment du match ou à l'entraînement. Et en fait, il y a ce... Quand on s'entraîne régulièrement au rugby, on y va avec, avec justement ces soucis, ces pensées qui font écho à nos pratiques respectives dans la vie quotidienne. Et je pense qu'elles permettent, de les attacher, de créer une espèce de continuité. Je ne sais pas, en tout cas pour moi, ça marque une chronologie, presque comme si... Le rugby allait devenir un agenda sur lequel je note les moments de ma vie. Donc, voilà, disons, je passe une mauvaise semaine parce que je n'arrive pas à écrire. Je vais aller au rugby avec un mood particulier et je sais que ça va être inscrit dans ce temps-là. Et, ça va, et j'ai plus conscience d'avoir une pratique régulière grâce à la régularité de se présenter au rugby, sachant que ma vie est assez dispersée dans les autres secteurs.
Qu'est-ce qu'on peut lire ? Oui, bon, il y avait cette idée de que j'ai un peu précisé quand tu disais qu'on avait une pratique du rugby, qu'on était dans un monde amateur. Et en préparant cette émission... J'avais repensé à ce texte qui parle d'un autre sport, qui est la boxe. On peut faire un petit dédicace à Victoire,
ouais.
Le bar, qui voilà. Pratique.
Salut Victoire, le Bars.
Et donc c'est un livre dont la narratrice habite à Berlin-Est et elle rentre avec quelqu'un dans une salle de sport, mais en tant que spectatrice. Et je sais pas, je trouve que ça disait quelque chose de l'ambiance qu'il peut avoir autour de nous quand on joue. Last Saturday, I visit an amateur boxing fight in the outskirts of Berlin. My friend and I paid €6 each, stepped into the old gymnasium, bought some beer and walked across the wooden floor towards the brightly lit boxing ring in the back. We saw men and women of all ages, and the atmosphere was more serious and more exciting than the junior fight I had seen last summer. Usually, in these amateur fights that last only 3 rounds, no one gets knocked out. They take place in the outskirts, in old gymnasiums with shitty sound system, homemade sandwiches, and aged photographers that send a boyish smile your way when they realize you've been watching them and have again seen them miss the right moment to release the shutter. When a boy wins, you might see him get covered in hugs and kisses by his grandmother, his biggest fan. Donc en gros, elle rentre dans un... Il y a des bières, elles peuvent... la place est pas chère, mais tout le monde a l'air très sérieux. Et quand un garçon gagne, c'est sa grand-mère qui l'embrasse. Mmh. Il y a un côté un peu familial dans ces pratiques amateurs. Mmh. Enfin, moi, je sais que je joue avec mon frère, par exemple. Je sais pas si t'as...
Moi, j'ai...
des choses à dire par rapport à ça.
Non, j'ai jamais joué avec des membres de ma famille, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est très présent, en tout cas au rugby, même dans sa transmission. Mais c'est vrai que bah, y a quand même une telle proximité des corps, mais aussi de l'environnement, quand même. L'environnement du clubhouse, l'environnement des entraînements, du vestiaire, etc. Et je pense que... Moi, j'adore avoir cette description-là, en tout cas... Du passage du texte que tu viens de lire, parce que c'est vrai que c'est comme une vie un peu secrète qu'on mène quand on joue au rugby. Moi, j'ai l'impression que tous mes amis, très très peu de gens que je côtoie sont venus me voir jouer au rugby et n'ont pas idée en fait de l'environnement que c'est. Et,
oui, avec ça a charrié un peu son lot de fantasmes aussi.
C'est sûr.
Qui sont toujours contredits par la réalité.
Oui, c'est vrai.
On s'était dit, parce qu'il y a aussi dans les goûts, je pense, de gens qui font ce genre de sport, une attirance pour certains types de textes, et dont certains qui sont assez proches du corps, on va dire. Et du coup, il y avait un texte de Monique Wittig dans Paris la politique, qui est sorti chez POL. Et je vais peut-être vous en lire un extrait. C'est pas forcément un texte qui a un grand rapport avec le rugby d'ailleurs, mais... La ligne. La ligne générale est maintenant réduite à un fil. Il était convenu de faire assez large pour que tout le monde puisse y passer, même à plusieurs, de front. Les assemblées ont succédé aux assemblées, les cris aux cris, les arguments aux arguments, et le plus vaste dénominateur commun entre toutes n'a pas excédé la largeur d'un fil. Au lieu d'une vaste allée où on allait s'engager, il y a cette corde, au-dessus du vide, tenue de chaque côté, sur laquelle il faut passer une à une. Une fois qu'on risque le passage, l'avancée est rendue difficile par l'extrême force du vent qui pousse la corde de côté et d'autre et menace de déséquilibrer la balance. Ce n'est que lorsqu'on est trop engagé sur cette satanée corde pour reculer qu'on mesure le péril avec exactitude. Et quoi si les mains qui tiennent la corde tout à coup la lâchent ? Ouais, tu parlais de jouer contre le vent.
Ouais, je pense que ça, c'est...
Quand on avait lu ça tout à l'heure.
Ouais, jouer contre le vent, c'est aussi une question aussi d'être focus sur les éléments et comment ils t'empêchent d'accomplir quelque chose. Mais en fait, là, en t'écoutant lire le texte, je pense surtout à la façon dont on... Quand on joue au rugby, il n'y a plus que l'espace du terrain qui compte. Et on essaie de le... Ben, je suis désolé, je vais faire plein d'anglicismes. On le map, on le cartographie, on cartographie le terrain et on voit quels joueurs sont où, qu'est-ce qu'on doit faire, mais on est très focus sur cet endroit-là. C'est comme si ça donnait une sorte de lieu clos avec ses lignes, les lignes du terrain. Et tout ça devient confus aussi parfois lorsqu'on se prend des chocs. Il faut arriver à garder une certaine présence,
conscience d'esprit
pour arriver à...
Pour se situer dans l'espace.
Ouais.
D'ailleurs, il y a des joueurs qui s'entraînent dans le noir, notamment pour les mêlées, pour que la position du corps, elle soit plus... elle vienne comme un réflexe. Quoi.
Ouais.
D'ailleurs, en parlant de réflexe...
T'avais
pas un texte... Un philosophe sur une main qui s'agitait.
Oui, c'est un texte qui est paru en 1916 dans une revue. Et c'est un... Donc il s'appelle Victor Delbos. L'auteur du texte s'appelle Victor Delbos. Et j'écoutais ça avant de m'endormir hier soir. Ben, j'arrivais pas très bien à dormir. Et c'est un texte qui parle de Malgrange et Mendebiran, qui sont deux philosophes. qui se ressemblent sur certains points, mais qui ont aussi des points de désaccord. Et donc ça, là, il parle plutôt de la philosophie de Malebranche. Donc ça commence comme ça. Notre bras se remue sans doute quand nous le voulons. Mais de ce mouvement, nous ne sommes que la cause naturelle ou occasionnelle. Non la cause véritable. Une cause qui ignore comment elle fait ce qu'elle fait n'est pas une véritable cause. Pour être la véritable cause du mouvement de notre bras, nous devrions connaître la totalité des conditions organiques qui permettent à ce mouvement de s'accomplir. Or, les hommes remuent leurs bras sans savoir s'ils ont des esprits animaux, des nerfs, des muscles, etc. On allègue, il est vrai, que pour remuer le bras, il ne suffit pas de le vouloir, qu'il faut encore faire effort. Et l'on imagine que cet effort, dont on a le sentiment intérieur, est la cause véritable du mouvement qui le suit. Parce que ce mouvement est énergique et violent à proportion de la grandeur de l'effort. Mais il y a là une illusion. Autre chose est effort, autre chose est efficace. Nos efforts sont le signe d'une impuissance, non la preuve d'une puissance. Ils ne diffèrent de nos autres volontés pratiques que par le sentiment pénible qui les accompagne. Ils ont lieu quand il y a très peu d'esprits animaux dans les corps, ou quand les chairs des muscles sont incommodées par le travail. La prétendue influence de l'âme sur le corps comme du corps sur l'âme se ramène donc à une correspondance réciproque de leurs modalités. Voilà. Toi, qu'est-ce que ça t'inspire ce...
Un peu le mystère entier qui se passe quand on habitue notre corps à, avec l'entraînement à certains types de réflexes, et que ça se produit ou que ça se produit pas. Et que toutes ces informations qui passent par notre corps sans forcément beaucoup de réflexion, je trouve ça toujours assez mystérieux.
Quand tu vois des joueurs jouer aussi à la télévision, est-ce que tu as cette impression aussi où tu te dis, mais oh, comment il a eu ce...
Ouais, sur certains gestes, ouais.
Il y a vraiment des choses qui sont...
Tu te dis, mais comment il... Ouais.
Moi, je pense que c'est le geste qui m'impressionne le plus à ce niveau-là, c'est l'offload.
Ok.
Parce que l'offload, j'ai expliqué un peu, c'est quand un joueur est en train de...
De tomber,
il est en train d'être plaqué, et donc là, il va faire une passe au moment où il est en train de tomber, ce qui peut être une pratique assez dangereuse, parce qu'on risque de mal faire la passe, vu qu'on est déséquilibré. Donc ça, c'est assez impressionnant, parce que ça implique souvent de ne pas voir le joueur qui est derrière soi, mais d'avoir une espèce de... comme avoir des yeux derrière la tête, de savoir où se... de connaître la présence de son partenaire. Et ça, c'est un automatisme qui est assez... Même moi, quand j'arrive à le faire, je suis assez surpris d'arriver à le faire parfois.
En plus, c'est marrant parce que la passe au rugby, elle est souvent liée à la question de l'amour. Enfin, l'amour que tu portes à tes coéquipiers. C'est un peu... Parce qu'il faut savoir où est la personne sans savoir... sans beaucoup d'informations où elle est. Et ça me fait penser à presque des lettres que tu pourrais écrire genre sans connaître... Enfin, tu le tentes, quoi, mais...
Ouais. Il y a aussi une forme de châtiment si on ne fait pas la passe au rugby.
Ah bon?
En tout cas, on se fait traiter de coffre.
De coffre à ballon.
De coffre à ballon. C'est quand même quelque chose...
C'est vrai que cette expression, coffre à ballon, elle est intéressante. Il y avait un joueur qui était assez fort, on peut dire, comme Bastaro, qui était souvent vu comme un coffre à ballon.
Mais parfois, ça crée des choses aussi. Oui. Mais bon...
Pour revenir, là on a vu un peu les questions de pratique puis les questions de corps un peu. Il y a aussi une autre dimension au rugby, ou en tout cas dans un sport amateur, qui était légèrement évoquée par le texte d'Anna Z, qui est une dimension sociale. En cherchant des choses, il y a toute une dimension culturelle avec le rugby français qui se passe beaucoup dans le sud-ouest. Et je sais pas, par effet comment on dit de plaquage de plaquer l'une chose sur l'autre, je me suis dit que ça me faisait penser à une ère qui correspondait à celle de la civilisation occitane au Moyen-Âge. Et du coup, en relisant des textes qui parlaient de ça, je suis retombé sur un texte de Simone Veil qu'elle a écrit je pense dans les années 40. Le poète de Toulouse sent très vivement la valeur spirituelle de la civilisation attaquée. Ah, c'est le minuteur. Faudrait peut-être s'arrêter. Je lis quand même le texte. Le poète de Toulouse sent très vivement la valeur spirituelle de la civilisation attaquée. Il l'évoque continuellement, mais il semble impuissant à l'exprimer et emploie toujours les mêmes mots, prix et parage, parfois parage et merci. Ces mots, sans équivalent aujourd'hui, désignent des valeurs chevaleresques. Et pourtant, c'est une cité. C'est Toulouse qui vit dans le poème, et elle y palpite tout entière, sans aucune distinction de classe. Le comte ne fait rien sans consulter toute la cité. Alors là, j'avais un accent déplorable. Li cavalier el borghese el la culminataz. Et il ne lui donne pas d'ordre. Il lui demande son appui. Cet appui, tous l'accordent. Artisans, marchands, chevaliers, avec le même dévouement joyeux et complet. C'est un membre du Capitole qui harangue devant Muret l'armée opposée aux croisés. Et ce que ces artisans, ces marchands, ces citoyens d'une ville, on ne saurait leur appliquer le terme de bourgeois, voulaient sauver au prix de leur vie, c'était joie et parage, c'était une civilisation chevaleresque. Ce pays qui a accueilli une doctrine si souvent accusée d'être antisociale fut un exemple incomparable d'ordre de liberté et d'union des classes. L'aptitude à combiner des milieux, des traditions différentes, y a produit des fruits uniques et précieux à l'égard de la société comme de la pensée. Donc c'est un texte où elle parle, enfin pour resituer un peu le contexte, elle parle un peu de la poésie occitane. Est-ce que tu as une réaction à ce passage?
Je pense que tous les joueurs de rugby savent que en effet il y a une certaine diversité dans les profils des origines sociales des gens qui jouent au rugby. Et c'est vrai que du coup ce moment de faire union au bout d'un moment sur le terrain, c'est quelque chose d'assez particulier parce que tout le monde vient avec un peu des formes d'éducation différentes.
Des opinions politiques différentes.
Ouais, ça c'est sûr. Et du coup...
c'est assez... Des corps différents aussi.
Ouais, des corps, ouais. C'est aussi un grand lieu d'inclusion parce que... Il y a en effet une forme de division sociale du travail, on va dire, au rugby, mais qui permet d'inclure tous les corps. Et on voit aussi de plus en plus que finalement, la forme de ces corps, est, là où avant elle était quand même très très définie, j'ai l'impression qu'en tout cas les corps, à cause du rugby professionnel, s'uniformisent de plus en plus. Mais donc du coup, on peut voir des joueurs... changer de poste plus qu'avant.
Oui. Mmh. Mais ça, c'est à très haut niveau, parce qu'à haut niveau, on garde un peu cette ancienne.
Ouais, c'est vrai.
Enfin, ces corps différents qui correspondent à certains types de postes. On va dire si t'es grand, t'es deuxième ligne, si t'es petit, tu vas jouer neuf.
Ouais.
Peut-être j'aimerais bien qu'on. T'avais un texte, peut-être pour finir sur les fesses.
Ouais. Alors, c'est un texte qui apparaît dans un livre de Anne Sauté. Je ne sais pas si on prononce Sauté ou. Sauter, je ne sais plus. C'est sa thèse, une thèse de sociologie qui s'appelle Rugby, être du féminin, être du masculin. Et dans cet ouvrage, elle cite un auteur, et j'ai complètement oublié le nom de cet auteur. C'est un journaliste, on retrouvera. Et donc voilà. Alors, il y a dans le sport une exaltation du muscle qui profite naturellement à la fesse. Dans la lutte gréco-romaine, par exemple, le cul se développe un peu comme un accordéon. Il se tord, s'ouvre, s'écarte, dans une véritable chorégraphie fessière. Mais le grand sport de la fesse, celui sans lequel elle ne serait rien, c'est bien sûr le rugby. La fesse du rugby, c'est la fesse qui a de la carrure, la fesse baraque, la fesse bourrique, c'est la fesse de la mêlée, spécialement la fesse des troisièmes lignes. Puisque ce sont celles qu'on voit le mieux, qu'est-ce qu'une mêlée, sinon une cohorte de culs emboîtés qui forment une sorte de tortue de Deutone, de rosace infernale ou de roi des rats du cul. Gigantesque monstre fessier, incohérent et vivant, qui se déplace brusquement, par à-coup, pour finalement exploser dans l'atmosphère et se reconstituer ainsi 35 fois par match.
Bah merci.
Bah toi qui es troisième ligne, ça parle un peu de toi du coup ce...
Oui. Oui, on peut le dire, mais je me vois pas, du coup, je peux pas savoir.
Je confirme aux auditeurs.
Et Merci à Hélène qui a fait la technique sur cette émission. Et merci à toutes les équipes de DU et 10 ans. Et 10 ans, ça se fête. Donc on va faire la fête.
Joyeux anniversaire DU.
Joyeux anniversaire.